Alors, frères et sœurs, il était important pour moi de commencer ce partage en vous présentant mes excuses. En effet, je devais être de prédication la semaine dernière, mais je n'étais pas prêt. Mon message ne l'était pas, et moi non plus, à vrai dire. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir vous partager, et même si la Bible est riche d'enseignements et de sujets de prédication, il arrive de manquer d'inspiration ou peut-être de ne pas être dans de bonnes dispositions. Une sorte de page blanche, comme pour les écrivains. Vous le savez, j'ai plutôt tendance à être thématique dans mes partages, et c'est souvent mes expériences et mon cheminement personnel avec Dieu que je vous apporte en partage. Alors, je ne sais pas si c'est bien de fonctionner de la sorte, puisque du coup, mes partages vont dépendre en grande partie de ce que je vis. Comme nous le lisons en Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. » Que se passe-t-il alors quand le cœur est troublé ou pas bien disposé? Je me suis demandé s'il ne fallait pas plutôt que je prenne l'attitude ou la position d'un enseignant. Un professeur transmet sa discipline sans nécessairement partager sa vie. Il enseigne sa matière selon le programme scolaire. Il y a cependant dans mes partages une part de témoignage. Et je ne cherche pas à ce que ce soit mon expérience que vous reteniez, mais que ce soit bien l'œuvre que Dieu accomplit au travers de ces expériences. Cette expérience pourra ainsi faire écho en vous, convaincu que Dieu se sert de ce que nous vivons ou de ce que d'autres peuvent vivre pour nous amener à la compréhension. Un sujet sera d'ailleurs traité différemment en fonction du vécu et de l'histoire respective de chacun. Mais je crois, toujours dans le but d'édifier celui qui l'entendra. Nous passons tous par des saisons, des périodes qui peuvent s'avérer plus ou moins longues, et il arrive parfois d'être moins inspiré. Tiraillé par la culpabilité, désolé de mes incapacités, tracassé par mes faiblesses, pris par le temps, je n'ai pas été capable d'assurer la prédication de la semaine dernière. Mais je suis reconnaissant envers Dieu, car Dieu ne fait rien au hasard. Et il s'est servi de cette incapacité pour me parler et me toucher d'une manière particulièrement puissante. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué lors du culte de la semaine dernière, mais plusieurs j'ai été touché et plusieurs peut-être aussi ont été inquiétés. Et donc je voulais les soulager, parce que oui, je vis comme chacun des difficultés dans ma vie. Et le Seigneur m'a particulièrement touché la semaine dernière. Damien, il nous partageait cette image du bras qu'il voudrait sentir l'entourer, du bras de Dieu qu'il aimerait sentir l'entourer. Et j'ai en quelque sorte senti son bras autour de mon épaule. J'ai été frappé, touché en plein cœur, ému par Dieu qui me parlait intérieurement. Par les paroles des chants, par la prédication de Jean qui nous partageait la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, de ce petit brin d'herbe qui jaillissait de la puissance de Dieu capable de s'installer n'importe où et de fendre même le béton. Cela faisait écho à ce dont j'avais besoin, à ce que je pouvais ressentir dans mon être. Et mes larmes n'étaient pas des larmes de tristesse, bien que c'était mêlé, mais c'était des larmes de reconnaissance, d'humilité et de joie, d'amour pour l'œuvre que Dieu accomplit dans ma vie. Et je suis convaincu que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Et par son œuvre extraordinaire seulement, j'aimerais, parce qu'il fait des choses extraordinaires, mais j'aimerais aussi vivre cette chose pleinement. Et je suis parfois confondu par mon péché. Quand j'étais plus jeune, je me vantais de dire que la vie était simple, qu'elle était belle. Alors certes, elle l'est, et c'est une grâce que de pouvoir vivre. J'aime pleinement la vie, et je loue le Seigneur de ce qu'il m'ait donné la capacité, enfin l'occasion de vivre. Malgré tout, en grandissant, je me rends compte que la vie n'est pas toujours facile. Il y a en moi bien des combats qui se livrent, davantage même que dans ma jeunesse, car aujourd'hui je ne suis plus seul. Dieu m'a donné une épouse, il m'a donné des enfants. Et il y a des choses que je pensais anodines qui deviennent notables. des difficultés qui s'imposent, des questions qui surviennent. Autour de moi également, beaucoup de personnes font face à des difficultés et les situations de vie compliquées dont on me fait part nourrissent ces réflexions. J'avais dernièrement ce sentiment d'avoir l'âme triste, découragée, le cœur lourd. La vie avec Dieu est tellement parfois intense et il peut y avoir tellement de contradictions avec le monde qui nous entoure que je suis parfois perdu par l'incompréhension et par notre misère. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, nous dit Paul en Romains 7, 24. Mais on lit dans le psaume aussi 126, versets 5 et 6, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. » La semence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Nous pouvons être attristés dans notre marche, mais cela ne nous empêche pas de semer. Et comme nous dit ce verset, la récolte se fera avec joie lorsque nous porterons nos gerbes, le fruit de cette semence. Alors, j'avais envie de vous partager de l'espoir. À l'image de ce que j'ai reçu moi-même de Jean la semaine dernière, et nous pouvons vivre cette puissance de Dieu dans nos vies et ne pas rester justement dans cet état de faiblesse. Jacques 5, verset 11 nous dit « Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. » Êtes-vous convaincu que Dieu est bon en tout temps, qu'il est plein de bonté et de compassion? Si vous l'êtes convaincu, je voudrais vous le faire dire. Alors en tout temps, et Dieu est bon en tout temps. Et Dieu est bon. Amen. Je vais prendre le psaume 34 à partir du verset 9. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Psaume 34 à partir du verset 9. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Nous parlions l'autre jour chez mon père de la prière à table et de l'importance que l'on y porte, qui est souvent fonction du contexte de vie. Le malheureux qui part travailler le matin sans manger, qui n'aura pas de repas à midi et qui attend le soir pour avoir un maigre repas, reçoit cette nourriture comme une bénédiction. Et il rend grâce à Dieu pour cette nourriture. Mais quand la nourriture abonde, au point de n'avoir même pas faim au prochain repas, le besoin de rendre grâce à Dieu se fait moins pressant. On ne se rend plus compte de la bénédiction sous laquelle nous reposons. Dans nos vies abondantes à tout point de vue, nous n'éprouvons plus la nécessité de nous en remettre à Dieu. Il devient difficile de prendre conscience des bénédictions sous lesquelles nous reposons, alors même que nous goûtons chaque jour que l'Éternel est bon. Dieu n'agit pas seulement dans le spectaculaire, mais chaque jour il nous donne le souffle de vie. Il nous donne la nourriture que nous recevons, Par la pluie abondante chez nous, certes, qui arrose la terre, sa puissance est à l'œuvre pour donner vie, construire, édifier. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans le ciel et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout, dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. 1 Chronique 29, versets 11 à 12. J'avais à l'esprit les re que Dieu donne dans la Bible. Dieu restaure, renouvelle, réveille, ravive, relève, régénère, rétablit, redonne, révèle, reprend, réconcilie, renverse, réjouit, remplit, rassemble, réunit, revêt. Il est une ressource, un recours, un remède. Et il y a sûrement encore d'autres plein d'autres mots comme cela, avec des re. Alors en tout temps, et Dieu est bon. Comment ne pas être touché lorsque l'on a goûté et que l'on a vu combien Dieu est bon? Lors de la Pentecôte, après que les langues de feu soient descendues sur les disciples, Pierre prêche à la foule en rappelant l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens. Et en Actes 2, versets 37 à 40, il dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ceux qui écoutaient cette prédication. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ces langues de feu descendues sur les disciples leur ont permis de se faire comprendre dans différentes langues à leur auditoire. 12 langues. L'auditoire était stupéfait que des hommes qui n'étaient pas de leur langue pouvaient parler de la sorte et ils ont même cru qu'ils étaient ivres. Je me demande comment ils ont cru qu'ils étaient ivres, parce que comment ivre on arrive à parler une langue qui n'est pas la nôtre? Enfin, on parle le chmemeleux, mais on parle pas. On parle pas. J'ai jamais parlé anglais ou italien en ayant bu. Alors, comment nous exprimer, dans une langue qui soit compréhensible par nos auditeurs? Ici, on parle tous le français, mais quel langage sera capable de vous toucher? Dans un de ses livres, Gary Chapman parle des langages de l'amour. Il explique qu'il y a différentes manières d'exprimer l'amour ou de le recevoir et que nous ne parlons pas tous le même langage, puisque nous avons des sensibilités différentes. Bien que le message de Christ soit universel, tout le monde ne le comprend pas et ne le reçoit pas de la même manière. Et je pense que nous, on est investis de cette mission, c'est de le faire comprendre, de le rendre accessible, de le partager autour de nous afin que d'autres puissent être touchés comme nous avons pu être touchés par la parole de Dieu. Ce qui m'a touché, ce que j'ai reçu, ce qui m'a fait du bien, comment ne pas le partager? Hier, je disais à un ami que j'avais fait beaucoup de choses dans ma vie, mais même si je suis encore jeune, mais rien ne m'a touché comme Dieu l'a pu le faire. Rien ne me parle autant, rien ne me bouleverse autant que ce que Dieu est capable de faire et de ce qu'il a fait pour moi. 1 Jean 1, versets 1 à 4 nous dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. » Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Dès lors que nous comprenons ce que Jésus est capable de faire pour nous, nous cherchons à nous approcher de lui, afin d'en quelque sorte pouvoir le toucher. Car notre désir est de nous approcher de lui. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé, ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, versets 7 à 10. Il y a d'autres exemples dans la Bible qui nous montrent que des personnes avaient compris leurs besoins et qu'elles ont cherché à toucher Dieu. Alors je vais prendre un dernier passage qui se trouve dans Luc 8. Luc 8, du verset 40 à 48. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint tout tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Alors je pense qu'il n'est plus le temps des reproches et de la culpabilité, de l'affliction, mais il est temps de reconnaître notre péché et d'aller vers Dieu, de chercher à le toucher ou, peut-être si cela n'a pas encore été fait, de se laisser toucher par lui. Pour que Dieu puisse te dire à toi aussi, « Ma fille, mon fils, prends courage, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. » Alors en tout temps, sachez que Dieu est bon. Soyez bénis, frères et sœurs.